Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de choix Radio X. Je vous rappelle ce qu'on vous mentionnait avant de partir en pause tantôt. Un meurtre viendrait de se produire au pénitencier de Donnacona. Un autre meurtre, à peu près dans le même modus operandi là, que la dernière fois, c'est-à-dire un détenu qui s'est fait trancher à la gorge dans le gym 240. Et on me confirme que le gym 240, c'est le secteur régulier au pénitencier de Donnacona. Fait que, voilà.
Ça n'a pas de maudit bon sens.
C'est sûr, ouais, ça
a l'air. À chaque semaine, il y a quelque chose.
Oui, à la personne qui nous tient au courant, là, ben, fais attention à toi, man.
Oui.
Oui, fais attention à toi. Oh, ça a l'air d'une job. Je sais pas combien tu gagnes, mais je prendrais le guess de dire pas assez pour le risque auquel tu es exposé.
Clairement pas assez.
Ouais, non, vraiment pas. Vraiment, mais vraiment pas. Moi, je pense qu'on resterait bête des salaires que ces gens-là font.
Ah, ouais, ben, on l'a sorti l'autre fois dans le retour, puis c'était pas assez.
C'est en bas de 100, sûrement?
Ouais, ben ça montait peut-être un petit peu plus que 100, là, comme après 15 ans d'expérience.
Ah, OK, mais... ouais. Qui se rend? Y a-tu vraiment tant que ça de monde qui se rend à 15 ans?
Tombe en burn-out ou bien en dépression bien avant.
Ouais, non, c'est ça. Alors, je suis encore fessé de l'histoire dont on parlait la semaine passée, là, de la marde qui pogne en... C'était-tu à Donnacona ou... Tu sais, l'espèce de semi-émeute là, à Hors-Saint-Ville? Hors-Saint-Ville, où est-ce que finalement, c'est le détenu qui virait fou, les fils se sont touchés, qui s'est mis à pourchasser les agents correctionnels, genre un contre quatre, puis c'est les quatre qui se sont mis à se pousser.
Tu sais quoi le pire dans tout ça, dans l'histoire qu'on a là ce soir, là, c'est que demain, là, il va y avoir trois ou quatre personnes. Il y a une personne qui a commis le meurtre, qui va aller jouer aux cartes avec une travailleuse sociale, il y a une personne qui est décédée, puis il y a probablement deux, trois gardiens qui ont été obligés de gérer ça puis de séparer ça, qui eux vont être traumatisés puis vont se faire dire « Viens travailler demain puis ferme ta boîte. »
Ah, c'est ça, eux autres, ils vont se coucher à soir ou c'est une nuit, là, tantôt en rentrant à maison, puis ils vont se rappeler du bain de sang dans lequel ils ont été exposés. Puis la personne qui a fait ça, probablement un genre de maniaque, là, comme on nous raconte. Là, DH avait l'air bien plugué l'autre jour, là, sur le gars qui se passe des patentes dans l'urette puis tout ça, là, pas à Hors-Saint-Ville, mais à Donnacona. D'une chambre capitonnée, pardon à clé, puis je veux dire, bye bye, là.
Petite camisole de force, tu pourras plus rien te rentrer dans le bout, mon âme.
Ouais, c'est ça, une petite camisole sur le manchon.
Moi, les lobotomies, je trouve qu'on a arrêté ça trop tôt.
Make the lobotomy great again. OK, hey, dans un autre ordre d'idée, voilà pour ça. Très content, on s'en va rejoindre un nouvel ami de l'émission à qui on jase une couple de fois, une fois de temps en temps. Puis c'est toujours le fun d'avoir de ses nouvelles et surtout d'entendre parler de ses histoires complètement délirantes. C'est notre ami Max Dionne qui est au bout du fil. Salut, Max.
Salut.
En forme?
Oui, toujours.
Excellent. Hey Max, tu es vlogueur, YouTuber. T'aimes mieux quoi hein, comme descriptif?
Ah, ben je pense YouTuber, c'est cool. Tu sais, je pensais pas un jour me faire appeler YouTuber, mais là, à cette heure, j'aime ça le dire. Fait que, ouais, YouTuber, je pense.
facilement trouvable. Vous tapez Max Dionne tout d'un bout, puis ta chaîne qui est, je le répète, esthétiquement très, très bon. Tu sais, vraiment, pour quelqu'un qui a pas de... Tu sais qu'il n'y a pas 10 ans d'expérience derrière ta chaîne. Là. Quand on arrive sur ta chaîne, on a l'impression que c'est une patente établie depuis super longtemps, faite avec des gens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Sérieux, là, esthétiquement, c'est ça la coche.
Ben, je suis content d'entendre ça. Écoute, c'est le but. Ouais. C'est le but. C'est comme un front de magasin. Si tu as le goût de rentrer, ben, tu sais, mon travail est fait.
Ah, effectivement, tu travailles fort, puis ça paraît. Aujourd'hui, tu commences ça avec des nouvelles sur le Bigfoot. Tu nous as parlé de l'autre jour de cette histoire du monsieur prisonnier avec des Bigfoot. Finalement, il y aurait eu de nouvelles découvertes.
Ben c'est ça. Écoute, tu sais, c'est pour faire une transition fluide avec le monde animalier dans lequel vous étiez quelques minutes. Je me suis dit pourquoi pas.
Ben oui.
écoute, il y a un film qui est très connu là. Probablement tout le monde sait de quoi je parle. Si vous connaissez pas le nom, c'est le film Patterson-Gimlin. Ce film-là, tout le monde l'a déjà vu là. Tu sais, c'est le film qui shake, le Bigfoot passe, il se tourne la tête, il arrête un petit peu, puis il repart à marcher. Ça dure comme une cinquantaine de secondes. Ça date de 1967. Ce film-là, écoute, ça, les gens n'ont jamais réussi vraiment à dire si c'était vrai ou faux. Il y a des milliers d'analyses sur YouTube que tu peux voir, le déplacement, etc. et tout ça. Mais cette semaine, on a eu finalement, cette semaine, le 16 mars, on a eu la finalité de ce film-là parce qu'il y a une jeune fille, une femme du nom de Teresa Brooke qui a trouvé une bobine après le décès de son père qui s'appelle Norm Johnson, qui, lui, avait développé le film original de Patterson-Gimlin à l'époque.
Okay.
Et la bobine qu'elle a trouvée, sa mère avait exigé que tout ça soit caché parce qu'elle avait peur que son père ait des ennuis. Et sur le film, ça a été présenté dans un documentaire qui s'appelle « Capturing Bigfoot », qui a été présenté au festival SXSW en mars dernier. Et puis, dans ce film-là, on voit une scène qui est comme de répétition avec un costume qui ressemble beaucoup à celui qu'on voit dans l'autre film, qui aurait été tourné un an auparavant. Et puis là, on arrive à la conclusion que effectivement le film aurait été truqué puis qu'il y aurait eu une répétition auparavant.
Fait que ça, ça rend caduc des on part à la chasse au Bigfoot. C'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde sont allés se cacher dans le bois pour pas grand-chose, hein?
Non, effectivement. Là, tu sais, j'irais pas perdre mon temps à essayer de filmer un Bigfoot. Puis tu sais, même le fils de Roger Patterson, qui est rendu à 66 ans, qui lui apparaît dans le documentaire Capturing Bigfoot, va dire qu'il savait depuis longtemps que c'était un faux et que sa mère lui en avait parlé. Puis qui dit qu'il a même vu son père brûler le costume dans la cour arrière. Bref, je sais qu'on va avoir deux types de personnes, ceux qui vont dire « bon, on a une finalité, c'est cool, that's it, ça aura duré 60 ans. » Puis on a d'autres gens qui vont dire que, encore là, ça prouve rien, puis tout ça, blablabla. Faites-vous votre propre opinion, hein? C'est le slogan de la radio, donc je vais laisser ça comme ça
Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le côté capitulons sur l'absurde. Là. Tu sais, le monsieur a vu qu'il y a de quoi qui pognait, il a décidé de brûler le costume puis garder ça mort pour 60 ans. Chapeau à ce monsieur-là.
Effectivement. Tu sais, les deux, là, ils sont deux là-dedans, là, donc... C'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Je ne voulais pas nécessairement faire une vidéo là-dessus, juste de faire une petite intro comme ça, mais écoute, c'est quelque chose de vraiment passionnant comme histoire, là, surtout avec ce qu'on sait là.
Puis aussi, il y a une partie de moi qui s'imagine la gueule de ceux qui sont exposés à ça puis qui font comme « va ». OK. Ou bien, ah non, vous me remplirez pas. Tu sais, quand certains platistes sont confrontés à des exemples.
Des preuves.
Ouais, c'est ça. J'osais pas dire preuve, mais c'est ça, dans le fond, là, des preuves, là, ou un globe terrestre tout court, tu sais. Puis qui font comme, non, je suis pas mainstream comme vous autres. Je suis pas un mouton.
Non, c'est ça, exact.
Alors, regarde. Ouais. Hey, aujourd'hui, l'histoire dont tu vas nous raconter est carrément, un rêve. Même si je suis conscient que ce rêve-là ferait probablement que je serais victime de violences peut-être épouvantables et qu'on insérait des choses dans mon corps. Être enlevé par des extraterrestres, je signe en bas de la feuille tout de suite. Peu importe qu'est-ce qui va m'arriver, parce que je veux vivre ça dans ma vie.
Clairement que t'as des petits rêves coquins arrière de ça.
Ah, mais non, mais pour vrai, puis le pire, c'est que je sais que... Parce que la culture pop, c'est tout le temps... Tu sais, les extraterrestres, s'ils kidnappent un humain, c'est tout le temps pour leur rentrer de quoi dans le péteux, là? Tout le temps. Mais je suis prêt. Je suis prêt à prendre ce risque.
Ah, ouais?
Ah, 100%.
Hey, 100%. Gros, là.
Ouais, oh, ouais.
Ben écoute, dans cette histoire-là, peut-être que tu vas avoir moins le goût, mais... Okay. Je vais quand même réussir à garder ton petit fantasme, là, parce que je débunk pas tout aujourd'hui.
Okay.
Loin de là. Fait que, écoute, j'ai vraiment hâte de vous lancer cette histoire-là. C'est une histoire, écoute, que je suis en train de travailler dessus justement pour une vidéo. Donc, s'il y a des petits détails moins précis qu'à l'habitude, vous savez pourquoi.
Mais sinon, je pense que
c'est ça, exact. Une exclusivité vraiment là, à 100%.
Très hâte.
Tu sais, pour comprendre cette histoire-là, OK, il faut que je vous remette dans le contexte. L'histoire se passe aux États-Unis à l'automne 1973. Et là, on est en plein chaos parce qu'il y a le scandale du Watergate avec la présidence Nixon. Pour ceux qui ne savent pas, là, vous irez faire une recherche, mais bref, ouais. Ça a comme éclaté au grand jour qu'il y avait des écoutes secrètes entre les partis et tout ça. Il y a aussi une guerre au Moyen-Orient. Puis les États-Unis, OK, à cause de l'Union soviétique qui est au bord de la confrontation nucléaire, ben, le niveau d'alerte militaire est comme au niveau 3. Là. On appelle ça DEFCON, c'est sur une échelle de 5, et là, on est déjà à 3. Et au milieu de tout ça, ben, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Parce que dans les journaux de l'époque, dans le sud des États-Unis, il y a des centaines de personnes qui vont rapporter des phénomènes aériens inexpliqués. Des lumières qui se déplacent, des formes ovales, des objets silencieux qui planent au-dessus des champs, des autoroutes, des maisons. Bref, l'automne 73, c'est ce que les ufologues vont appeler un flap ou une vague. C'est une vague d'ovnis, de pics massifs d'observation qui est concentrée sur quelques semaines.
Okay.
Et la nuit du 11 octobre 1973, on a deux personnes. Charles Hickson, qui a 42 ans, qui est un contremaître de chantier naval à Walker Shipyard à Pascagoula. Et là, le nom Pascagoula va peut-être éveiller quelques souvenirs à certaines personnes qui écoutent. Et ce gars-là, c'est un homme simple. Okay? Il travaille, c'est un père de famille. Et à côté de lui, il y a Calvin Parker, qui a 19 ans. Donc, il y a quand même un écart d'âge entre les deux, mais c'est des gens qui se connaissent, tu sais, les deux familles se connaissent depuis plusieurs années. Donc, c'est pas anodin que les deux soient ensemble ce soir-là. Calvin vient de commencer à travailler au chantier naval. Et puis, ben, c'est Hickson lui-même qui l'avait fait rentrer parce qu'il cherchait un emploi. Donc, c'est ça, on est le jeudi soir et après la journée de travail, il est aux alentours de 20 heures et les deux vont décider d'aller pêcher sur la rive ouest de la rivière Pascagoula, qui est entre un pont ferroviaire puis une autoroute, l'autoroute, le Highway 90.
Okay.
Donc, le soleil va se coucher, l'air est doux, il fait comme un genre de 23 degrés, puis on lance ses lignes à l'eau et comme ça, ben, ils vont pêcher tout doucement. Aux alentours de 21 heures, il y a un bruit étrange qui va percer le silence, un genre de sifflement, comme un bourdonnement métallique. J'essaie de faire mes propres
Let's go, effets. Let's go, man. C'est rendu que tu amènes même des sound effects.
C'est malade, écoute. Donc, les deux hommes ne vont pas réussir à identifier c'est quoi exactement le bruit, mais ils vont lever les yeux et là, ils vont voir deux lumières bleues qui clignotent au-dessus de la rivière. Et derrière eux, il y a un objet de forme ovale d'environ 9 à 12 mètres de long qui plane à quelques centimètres au-dessus du sol, qui émet cette lueur bleutée-là, qui va se refléter sur l'eau comme un genre de feu électrique. Et avant qu'il ait même eu le temps de réagir à ce qui est en train de se passer, il y a une porte qui va s'ouvrir de l'engin et trois créatures qui mesurent environ 1,50 m qui vont sortir. Les créatures ont la peau grise, un peu ridée, comme celle d'un éléphant. Là. Tu sais, on dirait un genre de cuir gris.
Okay.
Et elles n'ont pas de cou. Leur tête semble directement connectée à leur épaule. Et ils n'ont pas de yeux.
Oh.
Ils ont, en forme de bouche, c'est une mini-fente. Okay? Tu sais, comme juste une petite fente. Là. Il n'y a pas de distinction de c'est une bouche ou pas, c'est une mini-fente.
Comme des vrais sex-symboles.
À la place... À la place des oreilles puis du nez, c'est comme genre trois excroissances un peu pointues, comme, tu sais, je te dirais, la forme d'un chapeau de fête, OK?
OK.
Ouais, et puis, ben, ils ont deux bras normales, sauf qu'au bout, c'est pas des mains, ça va être des pinces que Hickson va dire qu'il y avait. Imagine un peu comme une paire de mains dans des mitaines. Tu sais, il n'y a pas de doigts définis, là, ça ressemble vraiment comme à une tape. Puis il y a genre un pouce qui dépasse.
Ou comme dans South Park, on pourrait appeler des hommes crabes.
Oui, exact. Et puis, ben là, si c'était pas encore assez étrange, leurs jambes, eux, c'est comme si leurs deux jambes étaient fusionnées en une seule puis que ça se terminait comme par un pied d'éléphant. Et leurs mouvements sont mécaniques, saccadés. Hickson va dire que ben, ça ressemblait vraiment à des robots. Et là... Sur le moment, les deux hommes sont paralysés.
Juste avant que tu poursuives dans la paralysie des deux messieurs qui pêchent trop tard. D'ailleurs, c'est quoi cette idée-là, pêcher à 9h le soir? Bref, y a-tu quelque chose que je peux taper sur Google Images pour avoir un croquis de ces créatures?
Oui, Marc, Pascagoula UFO là, okay. Ou Alien, tu vas le voir tout de suite. Là.
Gula UFO. OK, parfait. Tu peux poursuivre, les messieurs sont... Oh, wow! OK, tabarouette, OK.
comme je disais, c'est ça. Là, c'est sûr que là, comme ça, de l'expliquer et tout, les gens n'ont pas les images. Mais pour ceux que ça intéresse, ben, ça sera disponible sur la chaîne la semaine prochaine.
Exact. Puis en attendant, là, dites-vous que le personnage ou la créature est mûre pour jouer du drum dans Slipknot ou quelque chose du genre.
le nouveau membre d'Angine de poitrine.
Oui, oui, c'est ça.
Ouais, tu peux pas réussir à te déguiser comme ça à l'Halloween. Je pense que c'est trop complexe.
Non, effectivement. Fait que nos pêcheurs sont terrifiés, là, avec raison.
Oui, ils sont terrifiés, ils sont paralysés, là. Puis ils sont littéralement paralysés. Ils sont incapables de bouger, de crier, de faire quoi que ce soit. Ils vont être vraiment comme impossible de faire. Peu importe ce que tu essaies de faire, c'est impossible pour eux. Et là, ben, les créatures vont les prendre et les faire léviter jusque dans le vaisseau. Et là, à l'intérieur du vaisseau, c'est un espace qui est épuré. Là. Un peu comme ça, on s'imagine dans un film d'enlèvement extraterrestre. C'est des surfaces métalliques, c'est baigné dans une lumière douce et diffuse. Là. Il y a rien qui est visible. Il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Ixon va être maintenu en suspension dans les airs, okay? Juste quelques centimètres au-dessus du sol. Et un objet surgit en avant de lui. C'est une sorte d'œil mécanique qui, lui, va dire que c'est de la taille d'un genre de ballon de football, qui va se déplacer autour de son corps, comme si c'était en train de le scanner ou de l'examiner. Et tout ça, ça va durer, selon lui, une vingtaine de minutes.
Ben quand même, il y a le temps d'en profiter, chanceux.
T'as le temps de penser à pas mal d'affaires, là, genre qu'est-ce que je vais manger pour souper.
Oui.
Et là, après ce 20 minutes interminables-là, les créatures vont finalement les redéposer sur la berge. Et il faut dire que dans le récit, ben, Ixon, lui, est resté conscient et Parker s'était évanoui. Donc, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Okay? Il se souvient d'avoir vu l'engin et de s'être réveillé. Mais pour lui, c'est tout, contrairement à Ixon. Et là, ben, suite à ça, Ixon est sur les nerfs et il va s'envoyer 3 verres de whisky pour se calmer les nerfs. OK?
OK, ben oui. Mais, et là, ben voyons donc. Il y en a des idées, Charles Ixon. On pêche à 9 heures le soir. Je vis l'affaire la plus incroyable que jamais un humain a jamais vécu. Qu'est-ce que je fais? J'engourdis mes souvenirs avec un peu d'alcool. Voyons, monsieur.
Non, mais attends un peu, là. Pour relativiser, mettons, tu te fais kidnapper par des aliens. Quand tu reviens sur Terre, première affaire, tu fais ça, tu t'allumes un bat.
Peut-être, coupable. Ouais. Écoute, ouais, vu de même.
C'est ça. Et puis là, ben, okay, les gars vont comme rester un petit moment dans leur voiture pour exactement parler comme vous, là, se dire qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et puis, ben, ils vont décider d'appeler la base aérienne qui est la plus proche de Kessler et la femme va leur répondre que l'armée de l'air ne s'occupe plus des cas d'OVNI. Ils vont se tourner alors vers le bureau du shérif. Et en se rendant là, ils vont décider d'arrêter au bureau du Mississippi Press, qui est le journal local, mais il n'y a aucun journaliste à cette heure-là, évidemment. Donc, ils vont se rendre directement au bureau du shérif. Il est rendu 23 heures. Et là, le capitaine Glenn Ryder va les accueillir. Lui, il est sceptique, là, vraiment sceptique. Et il va sentir, effectivement, l'haleine d'alcool de Ixon.
Ben oui. Le monsieur de quoi, 73, tu m'avais dit, Charles Ixon, avec son genre de boy toy.
42,
excuse.
Ouais. Et mais là, ils vont passer un test de sobriété et ils sont pas ivres, quand même.
OK.
C'est qu'il est capable d'en prendre.
J'aime l'idée de « Hey, je vais vous écouter, mais avant, soufflez là-dedans, monsieur.
Ah, » c'est ça. Être... Ouais,
juste que je calibre à quel point je perds mon temps, là.
là, là. Et puis... pas Ixon, mais Ryder, qui est le shérif de police, va remarquer que les deux hommes ont comme des ponctions dans les bras, là, tu sais, des trous de seringue.
OK.
OK. Il va enquêter les deux séparément, puis après ça, ben notre shérif n'est pas fou. Il va tenter quelque chose d'assez incroyable. Il va laisser les deux hommes... seul dans la pièce d'interrogatoire. Et ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est qu'il y a un magnétophone à activation là, de voix qui enregistre tout.
Okay.
Et les deux gars ne le savent pas. Puis l'idée est simple. C'est si les deux hommes mentent, ben ils vont se trahir. T'sais, ils vont se dire « Ah, t'aurais pas dû dire ça » ou « Hey, là, il faut dire exactement la même affaire. Là, tu te rappelles les pieds, ce qu'on avait dit. »
Ou s'ils lâchent un « Hey, j'ai hâte d'aller retourner me piquer. »
Mais rien de tout ça va arriver. Okay. Et cette bande-là, audio, est disponible. Et quand on l'écoute, quand tu connais l'histoire complète, tu sais, je pourrais revenir là-dessus tantôt en fin d'histoire, mais c'est quand même assez impressionnant. Parce que là, il faut que tu te dises, à la base, on ne dit plus jamais que c'est un canular, si c'est un canular. Mm-hmm. Parce que ça dure 5 minutes et les deux gars parlent. Tu les entends parler, il y en a un qui marmonne des prières, ils se questionnent sur ce qu'ils ont vu, ils disent que les gens ne les croiront pas, qu'eux savent ce qu'ils ont vu et tout ça, puis que Hickson va même dire qu'il a su tout ce temps-là qu'il y avait des extraterrestres et que c'était vrai.
Okay.
Pendant 5 minutes. Et ça va être un gros élément pour les sceptiques autant que pour ceux qui y croient.
Max, que tu l'as écouté. Est-ce qu'on sent que les gars sont vraiment... Tu sais, il y a des affaires qui se fakent pas, à moins d'être tout un acteur. Là. Est-ce que tu sens qu'ils sont shakés, les gars, qu'ils sont traumas?
Oui, quand même. Mais c'est sûr que, tu sais, si je le prends du côté, je veux pas raconter n'importe quoi, tu sais, pour perdre la face... Ben, j'essaie de voir s'il n'y a pas des éléments, mais tu sais, je ne suis pas le premier à faire ça, là. Je veux dire, ça date. Là. Je sais pas, j'ai un petit malaise. Puis je vais vous dire pourquoi tantôt, là, on va juste se retenir malaise dans un tiroir, là, parce ouais. que je trouve ça bizarre, cette histoire-là, pour okay. plusieurs raisons.
Parfait, on te suit.
Donc, pour l'âge, tu sais, je vous rappelle l'âge des gars. Hickson, 42, puis Calvin, 19. Mm-hmm. Et plus tard, tu sais, le Captain Ryder, en réécoutant la bande, il va être comme vraiment ébranlé. Et puis, il va déclarer au Washington Post qu'ils ont tout fait pour essayer de casser leur histoire et que s'il mentait, ben, il aurait dû faire carrière à Hollywood tellement que c'était bon et convaincant.
Okay.
Et là, ben, le lendemain, le 12 octobre, tu sais, l'histoire va faire le tour, le Mississippi Press, les dépêches, même l'Associated Press, AP, là, tu sais, pour ceux que ça existe encore, là, ça va faire le tour. Et ils vont aussi amener les deux hommes à la base aérienne de Kessler pour des tests de radiation et ça va être négatif. Il n'y a aucune exposition anormale. Et là, ben, les réactions des deux hommes vont diverger complètement. On a Hickson, okay, qui est le plus vieux. Lui, passé le choc initial, là, va devenir okay, genre la vedette. Là. Il va répondre aux interviews. Il va même passer dans un show, un talk show super populaire à l'époque, qui est le Dick Cavett Show. Il va devenir la vedette ovni de la place.
Okay.
Tandis que Calvin Parker, lui, ben, il va faire une dépression. Quelques semaines après, et 2 ans après, il va en refaire une autre. Et il va pas donner d'interview, il va même changer de nom, il va changer de ville. Tu sais, pendant 45 ans, il va refuser carrément de raconter son histoire. Et puis, ben, quand on lui demande ce qui s'est passé à l'intérieur du vaisseau, il répond qu'il s'en souvient pas parce qu'il avait perdu connaissance. Et ça aussi, ça a une importance, notez bien ça.
OK.
Tu sais, le contexte de la vague d'OVNI de 73, ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que l'extraterrestre que je vous ai décrit tantôt, dans la pop culture, ça n'existe pas. Il n'y a pas de film avec une créature comme ça. D'habitude, c'est les guéris, les yeux en amande, ces choses-là. Mm-hmm. Cette créature-là qu'ils ont décrit n'existe pas à nulle part autre que ça, puis... Sérieusement, c'est une solide créature. Là. Vous l'avez vu?
Oui, effectivement. Ça doit contribuer justement à l'aspect un peu nouveauté. Ça doit contribuer. Probablement, l'histoire est complètement fucked up, mais au-delà de ça, pour le temps, ça devait comme être renouveler le concept d'extraterrestre.
Oui, ouais, exact. Et puis, ben là, tu sais, les ufologues et tout ça vont s'emparer. Il y a le docteur Hynek, pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment connu dans le milieu. Lui, il va se rendre sur place. Il va aller là et il va dire que ben, c'était quand même un cas assez majeur. Et puis, ben, on revient à l'enregistrement qui a essayé de les piéger tout à l'heure. Comment je te dirais ça? Quand la bande est devenue accessible au public, puis encore aujourd'hui, ben, tu peux pas ne pas être convaincu de l'affaire. Mm-hmm. Parce que tu te dis, c'est impossible qu'elle ait inventé tout ça. Et ils vont avoir passé aussi des tests de polygraphe. Charles Nixon va accepter de passer un test de polygraphe. C'est Scott Glasgow, qui est situé en Nouvelle-Orléans, qui va faire ce test-là. Et le test va indiquer qu'il ne ment pas. Sauf que le docteur Hynek, lui, va confirmer plus tard que ce test-là ne devrait pas être pris en compte parce que la personne qui passe le polygraphe n'est pas assermentée. Il n'a pas terminé son cours correctement.
Ah, okay.
Donc, tu sais, on va un peu tasser du reste. Puis de toute façon, on sait maintenant qu'un test de polygraphe, tu peux comme réussir à passer ça, même si tu mens.
Oui, c'est sûr, ça peut pas être retenu en cours comme preuve, ça, un test
c'est
de polygraphe.
C'est ça, exact. Il va y avoir aussi des séances d'hypnose, OK? Mais encore là, c'est à prendre avec des pincettes, là, parce qu'on sait qu'on peut introduire de faux souvenirs pendant l'hypnose. Fait que, tu sais, je les prends pas dans cette histoire-là. Puis, tu sais, pour le docteur Hynek, tu sais, je disais tantôt, ceux qui le connaissent, ceux qui le connaissent pas, lui a déjà déclaré, OK, en 76, que ça semble un peu ridicule que des intelligences venues d'ailleurs, surtout à cause des distances planétaires là, et tout ça, ça serait ridicule, selon lui, que ce soit des extraterrestres qui embarquent dans un vaisseau puis qui s'en viennent ici pour faire peur au monde. Tu sais, pourquoi? Ça sert absolument
à rien. Oui, c'est ça, les extraterrestres qui parcourent la galaxie pour faire des sons d'écrits, c'est bizarre, là.
C'est... Exactement. Fait que, tu sais, lui, il penche plus pour une hypothèse immatérielle. Peut-être des mondes parallèles, des choses comme ça, quelque chose qu'on comprend pas, qui se matérialise devant nous. Mais là encore, tu sais, moi, pour ma part, j'aimerais pas nécessairement voir ces bébêtes-là apparaître dans mon jardin.
Moi, je comprends.
Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, on a, pour cette histoire-là, tu sais, au niveau du debunkage, ben, on a un journaliste qui s'appelle, puis j'ai vraiment de la misère à prononcer son nom de famille, là, c'est Joe Etceteras, ou quelque chose dans le genre, OK? Lui, il travaillait pour le magazine Rolling Stone, puis c'est lui qui, lui, était auteur pour le film Basic Instinct, OK? Puis
okay.
Showgirl, tu sais, fait que lui, il travaille pour le Rolling Stone magazine et tout ça. Et en allant sur place, ben, il va apprendre des choses, OK, sur Nixon. Qu'il y aurait de la misère, OK, il aurait emprunté de l'argent à ses collègues, il y a de la misère à leur remettre, tout ça. Fait que, tu vois que là, ça vient jouer un peu dans est-ce qu'il y a des problèmes monétaires, puis avec la vague d'OVNI, il a décidé d'inventer une histoire. Il va même aussi découvrir qu'il y a deux postes de péage sur le pont de la 90, du Highway 90, qui est pas loin, qui, eux, les deux postes de péage, il y a des gars là-dedans, puis ils ont une vue directement sur la rivière, tu sais, où il pêchait, puis le pont ferroviaire un petit peu plus loin.
Okay.
Donc, s'il y avait eu des lumières bleues et tout ça là-bas, ben,
il les aurait
probablement vus, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Sauf qu'on a une fille qui va arriver il y a quelques années, qui va dire qu'elle était de l'autre côté de la rive, juste en face de où il y avait Calvin puis Nixon. Et elle dit qu'elle attendait son mari qui devait aller travailler dans la voiture et elle a vu les lumières bleues. Elle a dit pourquoi avoir attendu si longtemps et tout ça, pourquoi avoir sorti cette information-là. Elle voulait donner la confirmation que Nixon et Parker disaient la vérité. Dans le fond, elle le faisait pour eux, comme okay. pour dire « je sais que ce que vous avez vu était vrai
okay. ».
Donc, on en pense quoi, tu sais, de ce récit-là?
Oui, c'est ça. À date, moi, tu le sais, ma position sur les extraterrestres, là. I want to believe, mais je t'ai entendu semer des graines de doute tout au courant de ton histoire, là.
Ouais, exact. Ben, tu sais, la grosse pièce maîtresse, comme j'ai dit, c'est l'enregistrement audio. Puis, je trouve ça vraiment particulier. Par contre, tu sais, quand tu prends un gars de 42 ans qui a des problèmes financiers avec un jeune de 19, peut-être un peu naïf, tu sais, moi, à 19 ans, là, un gars de 42 m'aurait fait comme... Tu vas suivre mon histoire, quelque chose dans le genre. Ou tu sais, ce qui est bizarre, c'est que Calvin dit qu'il s'est évanoui. Est-ce que, genre, il aurait pas reçu un coup en arrière de la tête puis que l'autre aurait fait comme « Hey, on s'est fait enlever par des extraterrestres. » Tu sais, c'est toutes des questions que je me posais en cherchant cette histoire.
Ça, ou bien, tu sais, mettons, tu sais que... Mettons, on spécule, là, mais Nixon, il a une idée du plan puis t'as peur que l'autre, il n'y ait pas un discours qui concorde avec ton plan. « Ah, man, dis que t'as pass out. »
Non, c'est ça, exact.
Ça t'évite,
tu sais, ça va être simple pour toi.
Ouais, c'est ça, ça t'évite à retenir le script, là.
Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que Parker, un petit peu avant de mourir, va sortir et il va sortir son propre livre. Parce que Nixon en avait sorti un. mais Parker n'avait jamais sorti. Okay. Il a sorti un livre. En fait, je pense même que c'est son deuxième livre. Et puis, il va changer un peu son témoignage. Il va dire que finalement, il ne s'était pas évanoui, qu'il avait été resté éveillé tout le long, mais qu'il avait fait accroire ça parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions, il ne voulait pas raconter son histoire. Mais il ne dit pas que ce n'est pas vrai. Donc, il a attendu pendant comme 45 ans pour dire ça.
Est-ce qu'il confirme finalement l'œil qui vire autour puis tout?
Ça, écoute, j'ai pas lu le livre. Il est en commande. J'attends ma commande.
OK.
Je pourrais vous en dire plus. Mais tu sais, c'est ça. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis la maudite bande audio que tu dis tout le temps, ben, mais il y a une bande audio. Je sais pas. Écoute, quand j'écoute la bande audio, puis je prends, c'est ça, l'âge en... Puis comme un peu l'effet d'autorité, je trouve ça bizarre comme audio. Okay. Vraiment, vraiment bizarre.
OK. Mais en même temps, on n'a pas, tu sais, il n'y a pas de debunk, comment je pourrais dire, scientifique sous la main actuellement, là.
Ben non, tu sais, je veux dire, on a l'hystérie collective, il y aurait des choses comme les rêves éveillés, tu sais, c'est toutes des choses qui reviennent à chaque fois. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment dur à débunker, je pense, mais non. Tu sais, je peux pas t'affirmer à 100% que ce qu'ils ont vu était pas vrai, mais il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que je te dirais que j'ai vraiment de la misère à croire à ça. Ça va m'en prendre beaucoup, là, pour que je dise oui, ça, ils ont absolument vu des
extraterrestres. Ils sont là, ouais, c'est ça. Ouais, non.
Tu sais, il faudrait que moi-même, je les vois. Puis encore là, je me dirais, c'est-tu vraiment des petits martiens qui ont embarqué dans un vaisseau, qui ont pris l'autoroute interstellaire puis qui sont venus ici, là?
Ouais, j'ai
de la misère avec ça. J'aime beaucoup la position peut-être d'Hynek. Puis tu sais, j'en ai parlé dans un podcast la semaine dernière. Tu sais, moi, je me dis, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Probablement. Est-ce qu'il y a des affaires que dans 2000 ans, on va dire comme, hey, tu sais, c'était évident que c'était ça, là? Sûrement, là. Tu sais, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça c'est sûr. Puis si c'est au niveau du fonctionnement du cerveau aussi, ben ça sera ça. Tu sais, moi, je me positionne plus là, là. Mais j'aime vraiment beaucoup ces histoires-là parce que, tu sais, je trouve que creuser là-dedans, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis voir tout ce qui s'est passé dans ces années-là qui donnait une tangente à toutes ces histoires-là, moi, ça me fascine.
Ah, vraiment, la réaction de l'époque. Puis moi aussi, je suis complètement tiraillé entre... moi aussi, je crois que tu parles de 2000 ans. Dans 2000 ans, on va probablement avoir des perspectives bien différentes sur bien des enjeux. Mais tu sais, est-ce que... Je suis confronté entre... Tout ce c'est dans la vie. Fait que s'il y en avait des petits bonhommes gris, probablement que on le saurait puis que ce serait moins mystérieux que ce que ce l'est actuellement. En contrepartie, pourquoi est-ce que l'humain... Je trouve que c'est intellectuellement très égocentrique de penser que l'humain a tout pour spotter les hommes gris. Tu comprends ce que je veux dire? Ou même, tu sais, à chaque coup qu'on parle d'extraterrestres, tu remarqueras, ils ont tout le temps, ou à peu près, là je comprends, il y a des... Tu sais, là, on a affaire avec un genre de pogo avec trois pics au bout, là, mais tu sais, ils ont souvent un début de forme humanoïde. Tu sais, l'humain est toujours capable de s'imaginer ou de concevoir la forme qu'aurait un extraterrestre, alors que ça veut pas dire, peut-être que c'est une matière qu'on n'est même pas capable de percevoir, ou peu importe, autant par la vue, peu importe le sens, là.
Ben non, mais tu sais, c'est parce qu'on est conditionné à ça, là. Tu sais, je veux dire, quand on est jeune, on voit des... Tu sais, c'est juste normal, là, d'être conditionné à dire que des extraterrestres, ben, ça serait probablement du monde avec deux pieds, deux mains, deux bras, là. Mm-hmm. Mais effectivement, tu sais, mais dans ce cas-là, un pied d'éléphant, c'était nouveau, là.
Ouais, plus original. Ça, j'aime bien ça, le casque de Slipknot avec les gros pieds d'éléphant, là ça commence à me parler.
Puis, j'ai souvent des commentaires sur mes vidéos de gens, puis même des gens qui m'envoient des emails, des choses comme ça, qui me disent « Ah, tu sais, moi, j'ai déjà vu telle affaire. J'étais avec mon père, justement, on était à pêche. On a vu une patente passer. » Mais tu sais, j'en reçois tellement que je me dis « Ça se peut pas. » Tu sais, tout le monde invente ça pour le plaisir d'inventer. Fait qu'ils ont vu quelque chose. Ça, j'y crois que les gens qui me disent qu'ils ont vu quelque chose ont vu quelque chose. C'était quoi? C'est une christie de bonne question. Tu sais, j'aimerais ça le savoir, là. Puis probablement qu'on n'aurait pas de débat, puis ça serait vraiment plate. Mais Tu sais, c'est ça. Je sais pas si on va le savoir un jour, mais écoute, entre-temps, on va continuer de creuser puis essayer de voir des patterns. Puis,
Certainement. Puis nous, on va continuer à te suivre sur ta chaîne, Max Dion. Est-ce qu'un jour, tu penses, je te pitche ça comme ça, là, on brainstorm en ongles, mais tu me dis que tu reçois beaucoup de témoignages. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais faire des capsules, genre condenser des témoignages que tu as reçus? C'est quelque chose que tu as en tête?
Ben écoute, j'ai fait il y a une couple de semaines, je me rappelle pas, ça fait peut-être un mois, j'ai lancé un Google Forms, OK, pour les gens qui ont des histoires vraiment intéressantes, particulières là, à me raconter. J'ai reçu quelques réponses jusqu'à date. Puis tu sais, je pense, oui, faire une vidéo genre de vos expériences paranormales ou quelque chose dans le genre, tu sais, puis ça va être vraiment cool. Je vais essayer d'imager ça le mieux possible, puis tu sais, de les raconter un petit peu avec le petit ton storytelling.
Ben oui, ben
tu sais,
oui.
Pas romantiser leur histoire, là, mais tu sais, rajouter des petits détails intéressants pour rendre ça écoutable. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, là, je te dirais que présentement, j'ai fait des plus petites histoires parce que, tu sais, je mettais beaucoup de clips de mes vidéos longues, mais tu sais, c'est comme, je te raconte le hook de la mort, puis genre, ça coupe. Fait que là, le monde était vraiment, mais vraiment fâché là, dans les commentaires. Là, c'était comme, asti, pourquoi tu nous racontes une histoire, puis on n'a pas la fin? Fait que là... Puis, tu sais, je les comprends. Fait que j'ai comme lancé une couple de petits shorts, de reels sur Facebook, Instagram, TikTok. Ça dure entre une minute et demie. Puis, tu sais, je te raconte une histoire vraiment bizarre, fucked up, mais de bout en bout. Tu sais, comme hier, j'ai sorti celle sur un fermier qui a vu des traces de pas dans la neige, OK, qui partait de la forêt puis qui s'en venait vers sa ferme. Mais il n'y avait pas de traces qui repartaient. Et puis, une couple de jours après, ils se sont tous fait tuer.
Wow! OK, ben tabarouette. Ça n'est pas une bêtise, ça.
Ouais. Puis quand les enquêteurs sont arrivés sur place, puis tu sais, ça se passe en 1922, je me souviens bien, quand les enquêteurs sont arrivés sur place, ben ils se sont rendus compte que pendant plusieurs jours, ben tu sais, il y a quelqu'un qui a continué de nourrir les gens, le bétail, qui a entretenu le feu, puis qui a mangé, puis tout ça là-dedans pendant plusieurs jours avec les corps, puis ils n'ont jamais réussi à trouver c'était qui. Mmh. Fait que tu sais, c'est plein de petites histoires comme ça, super cool, tu sais, qui font pas nécessairement un 25 minutes, mais qui pique la curiosité, puis que moi je trouve vraiment nice à faire, si même des fois c'est peut-être plus légende mythique que histoire réelle, mais dans ce cas-là c'est vraiment arrivé. Fait que ouais.
Yes. Eh bien, Max, un gros merci. Puis on te suit évidemment sur ta page Max Dion sur YouTube. Un gros merci, mon ami.
Hey, merci beaucoup.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée, bye-bye.
Bye-bye. D'ailleurs, il a un Patreon. Hein, je vous invite à aller sur son Patreon si vous voulez l'encourager. Mais plus, là, des fois, soutenir des créateurs qu'on aime et tout ça. Une petite tape dans le dos, ça ne va pas faire une différence sur votre compte en banque. Mais lui, ça fait une différence sur la qualité puis la motivation à poursuivre un projet comme ça. Parce que partir un projet, c'est quelque chose. Le garder puis le maintenir en vie, ça, c'est un autre challenge qui est vraiment supérieur au premier. Fait que...
Surtout de maintenir une qualité de contenu comme il fait.
Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, en plus, on va se parler franchement, là, la compétition est rude dans ce milieu-là. Là, il y en a. C'est ça. Ce que je veux dire par rude, c'est qu'il y en a. Vous avez l'embarras du choix, mais d'un point de vue francophone, québécois, avec le type de sujet que Max va traiter, avec l'esthétique, le soin qu'il a, je reviens là-dessus. Moi, c'est important pour moi. Les affaires qui, à moins que ce soit voulu, parce que des esthétiques, tu sais, un peu BS, un peu broche à foin, moi, ça me plaît, j'aime ça, là, tu sais, mettons, Zach Bull, là, tu sais, fait exprès, on en a mon gars. Tu sais, ça me plaît, mais Max est léché, tu vois qu'il y a un soin qui est mis, puis ça contribue justement à la qualité du produit qu'il vous livre. Yes! On fait courte pause, le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais. Et Louis Gauvin.
Radio X.